Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
6h32. Le retour de ce week-end des experts, c'est le jardin. Patrick Mulan est là. Et dans un instant, vous allez tout savoir sur les choux. Mais auparavant, on retrouve vos questions. Et nous avons Didier qui est là. Bonjour Didier.
Oui, bonjour.
Bienvenue Didier,
bonjour
sur RMC. On vous écoute.
Voilà, alors j'habite un petit village à côté de Béziers. Et il se fait que pas loin de chez moi, il y a deux ruches chez un voisin. Et je trouve que cette année, il y a une floraison exceptionnelle. Surtout, alors j'ai un arbuste là, j'ai regardé sur internet, ça s'appelle un Calystemon citrinus. Et alors il est rempli d'abeilles. Ensuite j'ai des arbustes et puis des buissons épineux. Et tout ça, ça butine. Alors je me suis demandé si ça ne profitait pas, disons, à toute la floraison qui explose, quoi. Hein.
Alors...
Voilà.
La raison actuelle de l'explosion de la floraison, elle est essentiellement liée aux conditions météorologiques assez exceptionnelles que nous avons connues cet hiver. C'est-à-dire que les plantes n'ont pas été du tout agressées. Et ce qui s'est produit aussi, c'est qu'on a eu un véritable printemps. C'est-à-dire que l'année dernière, par exemple, il avait fait extrêmement chaud très très vite. Et ça, ça favorise pas... Alors, ce n'est pas que ça ne favorise pas l'épanouissement, mais ça ne favorise pas la durée des fleurs. Et ce qui se produit cette année, c'est assez rigolo, c'est ce que l'on voit dans des régions beaucoup plus septentrionales, par exemple comme le Canada, où vous avez à la fois des plantes de début de printemps et de fin de printemps qui se mettent à sortir tout ensemble. Et là, c'est pour des raisons totalement différentes, c'est parce qu'eux, ils ont un hiver très très long et que les plantes ont besoin de... s'éclater, si je puis dire, pour pouvoir se reproduire rapidement avec le court printemps qu'elles ont. Et nous, cette année, et vous avez très 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 bien observé, on a une explosion de floraison, mais tout le monde un peu en même temps, avec des plantes qui ont commencé pas très très tôt, parce que il faisait doux, mais pas plus que ça, donc elles ont commencé normalement, et puis celles qui sont arrivées avec de la précocité, donc du coup, on a une espèce d'explosion de fleurs.
Tout est parti, ouais.
Alors, les abeilles là-dedans, évidemment, elles en profitent, et elles vont aider par leur travail à la pollinisation, puisque elles vont... les abeilles ont deux intentions quand elles visitent les fleurs. Soit elles vont chercher le nectar, donc le nectar, on va dire, c'est une sorte de leurre de la part de la plante qui sécrète par des glandes spécifiques un liquide sucré attractif pour que l'abeille pénètre la fleur, frotte son dos sur les étamines qui contiennent le pollen, et quand elle visite une seconde fleur, eh bien, elle dépose involontairement, mais elle le dépose quand même, ce pollen qui est donc la semence mâle sur le pistil de la fleur. Et donc là, le travail... des butineurs, parce qu'il n'y a pas que les abeilles, les bourdons aussi sont extrêmement importants là-dedans, vont favoriser la fécondation des fleurs et donc la production de fruits notamment.
De fleurs.
Alors, non, non puisqu'elles travaillent les fleurs. Donc, elles vont favoriser la production des fruits. Et des fruits avec les graines. Voilà. Donc, le fait de mettre une ruche près des jardins ou même directement dans les jardins, c'est très utile parce que vous favorisez cette production de fructification. Ouais. Derrière ça, attention, il y a des règles. Donc, si vous voulez installer une ruche dans votre jardin, allez voir à la mairie pour demander quelles sont les règles qui ont été édictées localement. Parce que chaque maire a le droit de prendre des décisions spécifiques quant aux ruches.
Très bien. Merci Didier et mais écoutez, bon courage. Hein. En tout cas, c'est une initiative intéressante. Bien sûr.
Alors, dans vos jardins, vous pouvez aussi favoriser la venue des abeilles avec des plantes qu'on appelle mellifères. C'est-à-dire des plantes qui vont attirer parce qu'elles sont soit nectarifères, soit elles sont porteuses de pollen.
Merci beaucoup Didier. Tout comme Didier, vous voulez joindre Patrick le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Il est temps maintenant de passer au chou.
Savez-vous planter les choux à la mode,
ah.
À la mode. Savez-vous planter les choux
à la mode de chez nous.
Eh oui.
Savez-vous planter les choux,
ah, c'est la version un peu reggae. Vous avez vu Patrick, hein, c'est... Voilà. Donc, nous allons maintenant évoquer les choux. C'est vrai qu'il existe une multitude de sortes de choux, hein, Patrick. Et pourtant, la plupart sont pour les botanistes la même plante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les choux?
Alors, tous les choux à feuilles, on va dire, d'origine européenne, sont issus de la plante qui s'appelle Brassica oleracea. Et ça, c'est très étonnant, parce que entre un chou vert, donc un chou paumé, bon, un chou rouge, ça peut être logique parce que ça ressemble, simplement la couleur est différente. Mais un chou fleur, un chou de Bruxelles, un romanesco et même un chou rave, eh bien ce sont simplement des sous-espèces. Alors, en botanique, on pourrait un petit peu se bagarrer. Il n'est pas certain que la botanique internationale accepte le mot sous-espèce. On peut dire aussi des variétés ou des cultivars, parce qu'en fait, la plupart sont quand même des sélections humaines, mais qui sont parties de ce chou, qui est une plante bisannuelle. Donc ça veut dire que la première année, ça fait les feuilles, ça passe l'hiver, et la seconde année, ça fait les fleurs. Et que l'on voit beaucoup à l'ouest de l'Europe, et vous avez au bord, notamment dans les régions de l'océan Atlantique, des choux sauvages qui existent et qu'on peut rencontrer. Mais c'est tellement cultivé depuis très longtemps, parce que l'homme, depuis l'Antiquité et même avant, s'est rendu compte que les feuilles étaient comestibles, que l'on a fait tellement de sélections, de brassages, etc., qu'aujourd'hui on a des choux absolument invraisemblables. Je dis souvent, pour les gens qui sont un peu naturalistes au potager, je dis, mais attendez, vous cultivez souvent des monstruosités botaniques. Vous avez l'impression de faire du naturel, c'est strictement faux. Imaginez le chou-fleur. Le chou-fleur, avec cette inflorescence hypertrophiée, ça ne s'est pas fait tout seul. Donc il y a vraiment la patte de l'homme depuis des millénaires derrière tout ça.
Il existe 39 espèces de choux différentes, Patrick ?
Oui, tout à fait. Quand on regarde The Plant List, Plant List qui est un site officiel de toutes les espèces qui sont accepté, eh bien, on a 39 espèces. Et là-dedans, vous avez des brassicas qui sont pas des choux, et qui sont des moutardes, par exemple, sont des brassicas. Oui. Le colza est un brassica, le navet est un brassica, et les choux chinois sont aussi des brassicas.
Est-ce que c'est facile de semer les choux ?
Alors vraiment, oui. Alors ça, faut dire que c'est très très facile. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille à tous. Simplement, faut être patient. Parce que, bon, la levée est relativement rapide, mais un chou paumé, ça demande plus de 100 jours.
Ah, quand même.
Pour être produit.
Ah oui.
La levée des graines, c'est 3 à 5 jours, donc ça va rapide. Mais vous avez, oui, quand je dis plus de 100 jours, c'est même plutôt 120, hein, la plupart du temps. Et si vous faites des choux d'hiver, ça peut prendre 6 mois pratiquement.
Incroyable. Donc, ah oui.
Parce que c'est, oui, ça
se développe. Oui, c'est dense.
Voilà, ça se développe maintenant. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi je vous en parle maintenant, c'est parce que vous pouvez encore les semer. Mmh. Vous pouvez semer des choux au mois de mai et jusqu'à la fin juin. Et notamment, par exemple, sur les choux de Bruxelles, vous pouvez les semer assez tard, parce qu'on va les récolter pendant l'hiver, les choux de Bruxelles. Alors, faut aimer ça, hein.
Moi, je suis pas très fan. Hein.
Mais enfin, bon, c'est une plante qui n'est pas inesthétique non plus, le chou de Bruxelles. C'est très haut, puis ça fait ses petites pommes le long de la tige, mais pendant l'hiver, on les récolte.
Ah oui.
Ils vont mieux même, d'ailleurs, qu'une gelée soit passée dessus.
Dans quel type de sol on peut cultiver les choux, Patrick ?
Alors, ça aime bien l'humus, hein, les choux. Alors, pas du terreau pur, mais si vous pouvez mélanger à un terrain un peu argileux. Alors, l'idéal, le chou, vous savez, la grosse production de choux dans notre pays, c'est dans le nord de la France et aussi en Alsace pour le chou à choucroute. Mmh. Le chou à choucroute,
oui.
Vous savez comment il s'appelle ? Il s'appelle Quintal d'Alsace.
Le Quintal d'Alsace.
Alors, il ne fait pas un Quintal quand même, mais c'est
il est
un très gros chou. Voilà. Et qui est particulier puisqu'il fait des choux blancs qui sont très intéressants. Alors, ces choux aiment bien ces sols qui sont amoureux, comme on dit, vous savez, qui sont collants, qui sont lourds, un peu durs à travailler, mais dans lequel on apporte de la matière organique parce qu'ils en ont vraiment besoin. Alors attention quand même que ça ne soit pas détrempé, parce que vous avez des risques quand même de pourriture du pied. Il y a une maladie qui peut se mettre rapidement, une pourriture au collet et qui vous détruit votre chou. Donc, par temps pluvieux, par exemple, vous avez intérêt à pailler le pied de votre chou de manière à ce que ce paillis absorbe l'humidité et qu'il ne la concentre pas sur le chou. Ne vous inquiétez pas aussi, alors ça, vous pouvez pas y faire grand-chose, mais si l'année est très très pluvieuse, vous allez avoir vos têtes de chou qui vont se fendre, ça c'est naturel. Alors ce qu'on fait aussi, bon, s'il fait très 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 humide, ben, on va mettre un tunnel de protection.
Pour terminer, est-ce que on peut installer des choux n'importe où dans le potager, Patrick, ou il faut privilégier plutôt un endroit ?
Alors bien sûr, ça se met en plein soleil, mais un potager à l'ombre, ça n'existe pas. Un potager, bah, ça doit être un espace dégagé, bien lumineux. Alors, simplement, d'ailleurs, c'est presque un appel que je fais là. J'aimerais que vous soyez capable de me dire si la chose suivante est exacte, parce que moi, je ne l'ai pas vérifié. Mais on dit que la proximité de fraisiers avec les choux n'est pas favorable au développement du chou. Donc, si vous avez fait l'expérience, ou si vous l'avez.
Fraisier-chou, ça s'entend pas.
C'est ce qu'on dit.
Ouais.
C'est ce qu'on dit. Alors moi, j'aimerais bien qu'on puisse vérifier. Donc, si vous avez fait l'expérience ou si vous avez fait, bah, vous nous envoyez un petit SMS ou un petit mot sur la page Facebook. Ça sera sympa. Comme ça, on aura des meilleures idées par rapport à ça.
Je crois que vous avez un petit livre pour en savoir plus sur le chou, hein, si on veut creuser le sujet.
Alors, est sorti tout récemment Un potager très chou, c'est mignon comme titre, de Jean-Paul Thorez et Sandra Lefrançois chez Terre Vivante. Et c'est un bouquin qui est pas trop cher. Il vaut 14 euros. Il y a vraiment tout là-dessus avec vraiment toutes les tous les bons conseils de culture, bio bien entendu, puisque Terre Vivante, qui est l'éditeur, est un éditeur bio.
Parfait. Patrick, vous êtes vraiment mon chouchou. Ça y est,
il y a vraiment content.
Non, mais il n'y a pas à chipoter, hein, c'est vrai. Il est 6h44, on revient dans un instant. Le jardin, on va retrouver vos questions. Florian, qui sera là, il est envahi de grillons sur son gazon.
Ça lui prend le chou, ça.
Et je pense, et ça fait des dégâts. On va retrouver la météo du jardinier dans un instant. Et puis je vous rappelle qu'il y a toujours ce beau cadeau pour vous détendre, ce spa gonflable, les Ispas de Best Way que nous vous offrons ce matin. Vous pouvez l'installer où vous voulez, je le disais tout à l'heure, hein, dans votre jardin, mais aussi à l'intérieur, pour vous offrir un moment de détente. Et vous pourrez vraiment avoir un vrai spa chez vous, hein, avec cet appareil. Donc, si vous voulez tenter votre chance, vous nous envoyez jardin par SMS au 732-16. Jardin par SMS au 732-16. Et vous participerez au tirage au sort. Bien sûr, je vous souhaite bonne chance. Et on revient dans un instant, il est 7h moins le quart.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Nous voilà de retour. Un grand bienvenue à vous qui venez peut-être d'arriver sur RMC parce que vous venez peut-être de vous réveiller ou de vous brancher chez nous. On salue tous ceux qui sont au travail aussi. On sait que vous êtes très nombreux. On pense à vous. Merci d'être là. C'est le week-end des experts sur RMC, le samedi et dimanche, vous le savez. Les meilleurs experts m'accompagnent entre 6 et 10. Le 32-16, si vous voulez poser votre question jardin à Patrick Mulan. 32-16, l'appli RMC sur votre smartphone. L'appli RMC qui vous permet d'écouter RMC en direct, de retrouver tous les podcasts des émissions, mais aussi grâce à Direct Studio de nous laisser des messages. Vous tapez votre message avec votre numéro de téléphone, c'est très important. Vous nous envoyez tout ça et ça arrive en direct, en temps réel dans ce studio. Dans l'immédiat et avant de retrouver la météo du jardinier, c'est Florian qu'on retrouve. Bonjour Florian.
Bonjour François, bonjour Patrick.
Bonjour Monsieur Florian. Ça va ?
Ça va et vous ?
Vous nous appelez d'où ? Ça va très bien, merci. Vous êtes d'où ?
Alors, je vous appelle de Savoie.
Ah, parfait.
Il doit pas faire bien chaud, quand même.
Eh bien, écoutez, ce matin, j'ai 12 degrés à l'abri.
Ah bon ? Bon, ça va.
Ouais, non, si, on a une sorte de microclimat, parce qu'on est sous une montagne. Et il y a pas mal de vignes, alors je pense que ça doit avoir une sorte de microclimat.
Ah oui, le vin de Savoie, c'est réputé, quand même.
Oui. Alors, Florian, les grillons, racontez-nous.
Oui. Bah voilà. Alors voilà ma question. J'espère que Patrick pourra m'aider. Alors en fait, donc dans mon gazon, je suis littéralement envahi de grillons. Ils me font des trous au gros comme un bon doigt. Et le problème, c'est que s'ils feraient que des trous, bon, ça pourrait encore aller. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils me font une sorte de pastille clairsemée devant leurs trous. Et je suis littéralement envahi. Alors bon, c'est sympa pour l'apéro le soir quand on prend l'apéro et les petits grillons qui sifflotent. Mais là, ça commence à faire du dégât.
Ouais, je
voulais savoir si vous avez une technique.
Je pensais que c'était sympa pour l'apéro parce que vous les mangiez. Vous savez qu'il y en a qui mangent des grillons. Hein.
Alors, c'est un...
Non, non. Que les sauterelles, les grillons.
Non, les grillons, ça sera pour plus tard. C'est en dessert.
Le grillon grillé. Ouais,
et puis, c'est gros quand même, mine de rien.
Ouais, mais ça croustille. C'est ça qui est bien.
Alors... C'est une question qu'on ne m'a jamais posée. Je vais vous dire pour quelle raison. C'est que d'habitude, les populations de grillons ne sont pas invasives. On en a un petit peu comme ça. Mais quand il y en a énormément, c'est vrai que c'est embêtant parce que vous l'avez bien remarqué, vous avez observé, le grillon, lui, c'est un insecte fouisseur. Il fait des trous dans le sol pour, bah, pour y pondre, pour, disons, faire sa vie. Donc, dans votre cas, il n'y a pas énormément de solutions puisque, vous le savez, comme tout le monde, les produits de traitement chimique insecticides sont interdits. Et donc, on ne va pas pouvoir lutter directement. Moi, j'aurais une seule solution à vous proposer, c'est d'avoir des poules.
Ben, je ne veux pas avec ma femme pour l'avoir.
Ça a l'air d'être un peu bête.
Qui en veut pas?
Moi, j'en aimerais bien deux, mais madame est un peu plus réticente.
Voilà, alors... Ça a l'air un peu bête, mais les poules, ça mange un peu tout ce que ça trouve dans le sol. Ouais. Et alors, je suis pas sûr qu'elles vont manger franchement les grillons adultes, bien que. Mais les larves, etc., elles vont nettoyer tout ça. Parce que sinon, j'ai rien à vous donner comme solution, mais rien de rien.
Et Patrick, excuse-moi, des fois, la terre de diatomée, non, vous pensez, des fois, non, je sais pas. Parce que j'ai envoyé des photos à Gilles, je sais pas si vous les avez vues. Il y avait des photos des trous et j'ai mis un peu de terre de diatomée devant le trou, mais je sais pas si...
Alors la terre de diatomée, c'est extrêmement efficace sur les fourmis, parce que c'est tout petit, petit, petit. Et ça leur fait vraiment une barrière quasi
infranchissable. Ça les ennuie, oui, c'est ça.
Parce que la terre de diatomée, quand on la regarde au microscope, c'est comme si on avait des morceaux de verre minuscules qui étaient déposés sur le sol. Le grillon, c'est quand même un insecte déjà beaucoup plus gros.
Et il
n'est pas du tout certain que ça...
Ça l'embête.
Ça l'embête vraiment, oui.
Okay,
de toute façon, attendez. Quand on est confronté à un problème comme vous avez... Il faut tenter des idées, des solutions.
Expérimenter des choses.
Mais si ça se trouve, il faut en mettre beaucoup de terre de diatomée. Donc ça va commencer à vous coûter un petit peu cher. Non, franchement, moi, je vous dis...
Les poules.
Les poules, c'est un peu à la mode, etc. Et après, vous pourrez les éliminer de votre gazon. Enfin, les éliminer. Vous pourrez les mettre ailleurs que sur le gazon. Parce que quand elles auront bien nettoyé le sol, bien tout travaillé...
Vous croyez que quand vous disiez les éliminer, les mettre au four? Non, les pauvres.
Ça, on fait ce qu'on veut.
Oui, c'est sûr. Non, mais les pauvres. Et puis en plus, ça vous fait des œufs, donc c'est pas mal. Merci Florian pour votre appel. Dans un instant, Yannick sera là.